Ok.
Oh, bim.
On n'est pas tout seul. Où, qui, comment, pourquoi?
Non, 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 t'es pas tout seul, man. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de monde autour de toi et c'est tout de suite dans Action.
Je vais demander à monsieur David Beagle de bien vouloir me rejoindre. Et il est là en train de regarder si, bien sûr, on est en train de passer le niveau de Doom, parce que c'est lui qui a fait toute cette installation. Ouais. Au sein du cœur de la nef, ouais. Hein, dans le hall, dans le bar. Et David Beagle, il a beaucoup de choses à nous dire. En tout cas, on va apprendre beaucoup de choses pour les gens qui ne connaissent pas Doom, qui veulent le découvrir. David,
ouais. Je t'en prie, hein. J'allais te dire installe-toi, mais non, reste debout, prends un micro. Tu étais devant le jeu Doom.
Bonsoir.
Bonsoir, David.
Tu connaissais pas, tu étais en train de découvrir le jeu.
Oui, voilà, je suis en train de découvrir. Hein.
Alors, David, toi, tu es. J'ai vu hein, sur ta fiche Wikipédia, qui est forte, complète. Okay. J'ai pas eu le temps de tout lire. Mais toi, tu es un homme orchestre des jeux vidéo. Tu es un organisateur d'événements de rétro gaming. Et tu es un partageur de savoir.
Alors, j'apporte une petite précision. Pas forcément rétro gaming, mais aussi rétro computing.
Et c'est
tout un pan de l'histoire du jeu vidéo qu'on a tendance à oublier. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine tendance à un révisionnisme de l'histoire du jeu vidéo. J'emploie un mot fort, mais c'est voulu. Parce que c'est vrai qu'on, quand on parle de rétro gaming, on va souvent dire pour le grand public, ça va être Mario, Nintendo, Sonic, Master System, Mega Drive, Sega et tout bazar. Mais le jeu vidéo à l'époque c'était pas que ça, il y a aussi plein de choses qu'il faut remettre sur le devant de la scène.
Eh oui, on oublie les Commodore,
le
les
fameux
Amstrad,
Commodore 64 dont je suis fan aussi.
Amstrad.
Bah oui, c'est PC-464. Les premiers jeux.
Les cassettes.
Eh ouais, les Philips à cassette. Je mettais 4h le mercredi matin, entre 8h et midi, je mettais ma cassette, je mettais 4h à uploader pour l'après-midi jouer au flipper. Tu vois, c'est ça
Pac-Man.
Le jeu vidéo quoi.
Pac-Man, il m'a dit ça.
J'ai pas eu le droit à Pac-Man.
Alors David, toi tu as fait cette installation aujourd'hui. Dis-nous, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette installation que tu as retranscrit aujourd'hui?
Voilà, du coup ce que j'appelle la Doom Station, c'est en fait de pouvoir proposer aux gens de rejouer à quasiment toutes les versions qui sont sorties à l'époque. Donc et sur console et sur ordinateur. Et aussi il y a une partie, ce qu'on appelle une LAN à 4 joueurs, donc une partie multijoueur. Où ils jouent les uns contre les autres.
Voilà. Donc il y a une pièce où ils sont en réseau là-bas et ça joue. Mais alors là, on est sur PC du coup ?
Là-bas, on est sur PC, oui. Il y a aussi un PC d'époque, un vieux desktop IBM avec la version de 93. Et juste à côté de lui, il y a un PC récent avec la version de 2016, donc le tout dernier. Voilà.
Alors moi, j'ai noté plein de trucs. Et alors, c'est pas forcément que toi, parce que je suis allé sur un peu l'histoire de Doom. Alors la naissance, c'est bien en 1993.
Oui,
c'est Doom ça, ouais, 1, c'est... Ouais. Et j'ai vu que ça a été élu meilleur jeu de tous les temps. C'est vrai ou pas?
Alors,
à l'époque.
Ça, je sais pas. Ça reste subjectif tout ça.
C'est clair.
En tout cas, c'est clair que pour l'époque, il a mis une grosse claque à tout le monde. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'aller au salon Imagina qui se tenait à Monaco en 93. C'était un salon sur la 3D. C'était pour les pros. Donc là, on parlait vraiment de machines, de supercalculateurs, de tout ça. Et même là-bas. Ça ne parlait que de Doom, quoi. Donc les gens, même dans le milieu pro, même pas forcément que jeux vidéo, ça leur a foutu une claque, quoi.
Alors
et moi aussi, moi j'ai loupé mon année de seconde cette année-là.
Qu'est-ce qui a fait qu'on a vécu cette entre guillemets révolution? Est-ce que c'est dû au graphisme? C'est dû à l'approche donc de la 3D, à l'utilisation du jeu à...
Alors effectivement, la 3D, y a eu un bond entre Wolfenstein 3D, un jeu précédent de chez id Software aussi. Là, on est passé sur vraiment quelque chose de plus graphiquement plus agréable, on va dire, quoi, plus détaillé aussi. Et surtout, ce qui, je pense, a été le plus important, c'est le gameplay qui est hyper nerveux, en tout cas pour l'époque. Hein,
faut oui, pas, c'est ça, parce que j'y ai rejoué tout à l'heure et je t'avoue que lorsqu'on parle de graphisme et de rapidité de jeu, on est en 2018 et visiblement, on s'est fortement habitué à ça. Quoi.
Et évidemment, les versions console sont sorties quelques années après, elles ont suivi. Donc c'est quand même au départ un jeu très ordinateur et ça s'est beaucoup joué aussi surtout le côté université aux États-Unis qui était vraiment prise par ça non-stop quoi. Donc tous les gens voulaient jouer à ça quoi. C'était
Donc ça veut dire qu'il y avait il y a un documentaire qui retrace l'histoire de compétition entre deux jeunes garçons qui se battent pour être le meilleur à Donkey Kong. Est-ce que ça veut dire que pour Doom, il y a eu cette espèce de rivalité de qui était le meilleur à ce jeu-là? Il y a eu des compétitions qui ont été organisées
Des compétitions, ouais, mais je pense pas que ça a été un temps compétitif, quoi.
On était moins dans le jeu d'arcade, peut-être.
Ouais. Et peut-être que le côté compétitif est plus arrivé à partir de Quake, un peu plus tard, quoi. Toujours de chez id Software.
Moi j'ai lu plein de choses sur les internets et tu vas me dire si c'est vrai parce que t'es quand même le spécialiste de Doom ce soir quand même.
En toute humilité
quand même, mais spécialiste tout de même. Alors moi j'ai lu un truc, mais je voulais savoir, c'est est-ce que c'est vrai que le jeu Doom s'inspire d'une réplique de Tom Cruise dans La couleur de l'argent de Martin Scorsese.
Oh, j'ai pas vu le film, merde.
Alors, j'ai aussi entendu cette histoire.
Il l'a entendu parler, donc ouais. Ça veut dire
donc, que donc du coup, t'as regardé le film, j'imagine.
Je l'avais déjà vu.
Ok.
Mais je reste sceptique.
C'est tiré par les cheveux un peu.
Ouais, quand même, ouais.
Alors, il paraît qu'il existe une Bible de Doom rédigée par John Romero, John Carmack et Tom Hall, les trois créateurs du jeu. C'est vrai ou pas? Elle existe?
Oui, c'était surtout un fichier à l'époque qui se passait, qu'on se faisait passer sur Internet, etc. Quoi. Et à l'époque, je me rappelle.
À l'époque d'Internet, en 93?
Non, pas d'Internet, mais on se le passait sur disquette de pote à pote. Donc c'était long parfois, on pouvait attendre plusieurs mois avant que ça arrive jusque-là. C'est vrai que moi, j'ai joué à Doom sur une copie, évidemment, je ne l'ai pas acheté à l'époque. Quoi. Je me suis rattrapé après, par contre. Hein. J'ai racheté toutes les versions qu'on peut voir en exposition là-bas dans la vitrine.
Ouais.
Au final, c'est qu'une petite partie de tout ce qui existe, parce qu'il y en existe vraiment beaucoup. Je découvre encore même ces jours-ci qu'il y a des versions chinoises sorties à l'époque, mais évidemment que pour le marché chinois. Et ça va être encore plus dur à trouver que les versions japonaises, qui déjà sont elles aussi chaudes à trouver. Quoi.
D'accord, donc on est un peu comme un collectionneur de disques où l'édition a été différenciée par pays, par continent. Et donc on est à la recherche de tout ce qui existe.
Il suffit que la typo soit pas la même à l'arrière, où il y a une bande rouge sur le côté.
C'est une édition différente. C'est un collecteur différent.
Il y a eu des informations sur les jeux vidéo qui sont ressorties il y a quelques mois maintenant, suite à une fouille dans une décharge publique, en fait, où on avait retrouvé tout un stock d'un certain jeu vidéo.
E.T. sur Atari 2600.
Voilà, qui visiblement était extrêmement bien coté. Il y a eu toute une source comme ça qui est sortie des poubelles, comme par magie.
Donc j'ai vu que Doom est sorti en 1993. Ensuite, on a eu Doom 2 Hell on Earth en 94. Mm-hmm. C'est bien ça.
L'enfer sur Terre.
Ensuite, The Ultimate Doom en 95.
Le dernier Doom, donc.
Il y a eu Doom 1995. Il y a eu Master Level from Doom 2 en 95 aussi. Il y a eu Final Doom en 1996.
Ça aurait dû s'arrêter après.
Il y a eu Doom 3 en 2004. Parce que là, il y a eu une pause. Qu'est-ce qui explique cette pause?
Tout simplement. Déjà, je pense qu'ils ont bien tiré sur la licence dès le début. Quoi. Pendant quelques années, ils ont tiré à mort. Quoi. Donc, je pense que c'était logique de faire une pause quand même.
Ah, ça n'a pas été une pause due à la limite technologique, au développement du jeu, à l'histoire du jeu.
Non, pas forcément. Après, il y a des histoires aussi de rachat, de droits, de trucs comme ça qui viennent un peu empêtrer le tout.
Et après, par rapport à l'évolution des jeux que tu viens de citer, Mamat, les créateurs, est-ce qu'ils ont suivi l'évolution, toutes les sorties de ces jeux-là? Ils sont là tout le temps, présents? Ou alors, au contraire,
ils ont pu aller faire autre chose. Hein. Ouais. D'ailleurs, sur les derniers,
ils ont vendu la licence.
Romero n'y était pas. Ouais. Okay. Après, ça le touche beaucoup. Hein. Il regarde tout ce qui se fait là-dessus. Quoi.
Bah, j'imagine.
Mais bon, voilà, c'est pas son
jeu. Ouais, c'est un peu son bébé quand même. Quoi.
Ouais,
ouais, mais c'est pas son jeu, lui. Donc, il le suit. Il le regarde, il est intéressé.
Comme s'il y avait eu un remake de son premier film. Quoi.
Un peu ça aussi.
Donc, il y a eu Doom 3.
Je précise qu'on ne parlera pas du film.
Attends,
je ne veux pas en parler.
Non, mais on va pas en parler du film, mais c'était juste pour suivre l'évolution de Doom, parce qu'il y a eu Doom 3 en 2004, il y a eu Doom Resurrection of Evil en 2005, il y a eu Doom BFG Edition en 2012. Alors BFG Edition, je sais pas ce que ça veut dire, le BFG, mais...
Le BFG, c'est c'est le Big Fucking Gun, en fait, voilà. Donc avec ça,
tu peux tout... Le Big Fucking Gun.
Ouais.
Ok.
Voilà, c'est clair.
Oui, ça veut dire ce que ça veut dire, ok. Ça tue dans tous les sens, les amis.
Voilà.
Alors, il y a eu Doom 64 sur la Super Nintendo.
Alors, le Doom 64, c'est sur la Nintendo 64.
Ah, pardon, excusez-moi. Bah oui, forcément. Ah oui,
d'où son nom.
Forcément, pardon, excusez-moi. Alors, il y a eu le film qui s'appelle Doomsday.
Ok. T'as le nom des acteurs qui ont joué dans visiblement cette daube?
Non, mais on peut le trouver.
Ok.
En fait, dans le film, il y a...
Ah, t'as dit que t'en parlais pas.
Ouais, il y avait
The Rock. Ouais, vous cherchez là alors.
Ah ouais. Donc The Rock, qui est déjà un personnage issu du catch.
Oui.
Déjà, hein, pour définir un petit peu.
Et cela dit, du coup, là, il vient de sortir un film qui s'appelle Rampage avec The Rock. Oui. Et Rampage est aussi un film inspiré du jeu vidéo. Le jeu vidéo du même nom, Rampage. Là, on remonte vachement plus loin à l'époque des Atari 2600 et tout ça. Et voilà, c'est son deuxième film inspiré de jeu vidéo. Et il a dit. avec Rampage, je suis sûr de ne pas faire pire que Doom. C'est lui-même qui a dit ça sur son Twitter.
Et Doom, lui, était même déjà le jeu vidéo inspiré de films.
Oui. Mais pas que, je pense qu'ils sont inspirés de beaucoup de choses. Quoi. Ouais.
Et donc, pour aller plus loin, même, ils ont même été jusqu'à faire un Doom the Board Game, un jeu de plateau. Mm-hmm. Doom.
Oui.
Du coup, là, on vient à un truc plus pour enfants plus,
non, pas du tout, non. Non, non, pas du tout. Là, c'est un jeu comme tout ce qui va être jeu de plateau à la HeroQuest, Warhammer, Space Crusade, tous ces trucs-là, quoi. Donc, c'est vraiment un jeu pour adultes, on va dire. Enfin, ça doit être à partir de 14 ans, un truc comme ça, quoi.
Alors, toi qui es un aficionado de Doom, le jeu vidéo, mm-hmm. Est-ce que tu as déjà joué au plateau ?
Alors, j'ai pas joué au plateau, mais je l'ai.
D'accord.
J'espère m'y mettre.
En tant que collectionneur, se devait
mais
d'avoir.
Mais il y a le jeu de plateau, il y a une extension aussi. Mais là, avec le dernier, ils ont sorti des puzzles, etc. Il y a un peu tout, quoi.
Alors, Doom, à la base, c'était compléter 3 épisodes chacun sur 8 niveaux. Mmh. C'était ça, et à chaque version ça évolue ou on a toujours gardé cette même base?
Il me semble, je vais pas dire des conneries, mais dans Doom 2, je crois qu'il y a que deux épisodes avec plus de niveaux. Enfin, ça se rejoint toujours un peu comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a des variantes. Sur la Nintendo 64, c'est entièrement 32 niveaux complètement différents. C'est pas les mêmes sprites, donc les personnages, des monstres, etc., ce sont pas les mêmes. Ce sont pas du tout les mêmes musiques, c'est plus de l'ambiance. Il n'y a pas de musique, alors que dans Doom, là, on avait clairement des reprises de métal, on va dire, mais avec les sons de l'époque, donc c'était du MIDI, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pour la petite anecdote, c'est un avocat qui a fait les musiques de Doom.
Donc ça veut dire que pour un collectionneur, il faut avoir la version sortie chez Nintendo, la version sortie chez les autres fabricants, puisque la version n'est pas la même.
La version n'est
le
pas
jeu
la même,
n'est pas le même.
D'ailleurs, j'ai téléchargé des morceaux de l'auteur de la musique de Doom qui s'appelle, là j'ai plus le nom, mais qui s'appelle Buddy Prince ou un truc comme ça.
C'est Bobby Prince.
Bobby Prince, tu vois.
Ok. Et alors
et ben, c'est très métal.
Oui, oui.
Au final, c'est très musique d'aujourd'hui, un peu comme le style de la synthwave. Les groupes comme Carpenter Brut, Collège ou Perturbator, on revient à la même esthétique.
Ok.
Dis-moi, du coup, toi, tu as amené combien de consoles aujourd'hui ? De versions différentes ? Est-ce qu'on peut faire un peu l'historique de Doom aujourd'hui ? Si on est prêt à jouer sur tous les niveaux, se dit je commence par la première console, je veux finir le premier jeu, je passe à la suivante, on est obligé de revenir dans 15 jours ?
Pour le coup, j'ai amené 6 consoles, 6 versions consoles. Il y en a d'autres qui sont pas forcément plus intéressantes, donc on concentre sur ça. Après, il y a 2 versions PC là-bas. Il y a la partie en LAN, c'est sur la version d'époque aussi. Et il y a un mode de Doom qui est récent, qui s'appelle Brutal Doom 64. Donc là, on reprend le jeu de la Nintendo 64 qu'on a mis sur PC et qu'on a rendu plus violent. Okay. Donc là, on explose les monstres, on les finit en coups de pied, tout ça, tout ce qui n'existait pas à l'époque.
Ben non, à l'époque, 2 coups de pétard suffisaient pour les exploser.
Mais du coup, si je veux finir chaque Doom, là, tu penses que j'en ai pour combien de temps ?
Plusieurs années.
Plusieurs années ?
Ouais, clairement.
Comment ça ?
Non, je rigole pas.
t'as pas l'air. On te prend en sérieux, on t'écoute.
Et toi, tu les as tous finis ?
Non. Les versions PC et ordinateur, oui. Le 1 et le 2, ça c'est sûr. J'ai pas joué au 3 à l'époque. J'avais une machine qui était pas assez puissante, donc j'avais laissé filer. Et puis quand j'ai changé de machine, j'avais pas forcément envie de m'y remettre. Quoi. Voilà, après j'ai joué au plus récent, au dernier. Et puis bon, toutes les versions modées que j'ai pas mal essayées, qui apportent de... Parce que ce qui est bien aussi, qui a été apporté par Doom, c'est que les gens pouvaient toucher au moteur du jeu, clairement. Ils pouvaient faire leur niveau. Ce qui à l'époque n'était pas forcément prévu pour, quoi. Et puis on pouvait rajouter ses propres musiques, enfin on pouvait vraiment apporter plein de choses. Et du coup,
ça crée une communauté. Complètement,
voilà, ça crée une communauté internationale, c'était pas que aux États-Unis. Hein. Et du coup, ça fait un peu la légende aussi de ce jeu-là, quoi.
Alors si ce jeu est pas infinissable, mais il faut prendre beaucoup de temps visiblement pour le finir. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, que l'on s'échange entre gamers.
Voilà, il y a des choses, il y a les fameux secrets. Après, si on veut vraiment arriver à tuer tous les monstres sur le niveau, on n'est pas obligé. Hein, on peut finir le jeu sans avoir tué tous les monstres.
Ouais, mais le but pour les perfectionnistes, il faut qu'il y ait plus personne.
Il faut qu'il y ait du 100% partout, donc tous les monstres, tous les passages. Il faut tout ça. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y a des pratiques un peu différentes. On a tout ce qui s'appelle le speedrun, le superplay. Donc le speedrun, ça va être finir le jeu en le moins de temps possible. Et là, on se fout de tuer les monstres ou quoi. On va au chemin le plus court. Et les gens optimisent tellement leur trajectoire que ça se joue vraiment maintenant à la seconde, ouais. Des trucs comme ça. Quoi. Donc,
c'est du sprint de jeu vidéo.
C'est ça, ouais.
Moi, j'ai vu que le jeu était sorti sur Sega Saturn.
Ouais, il est présent, ouais, ce soir.
Sur Super Nintendo.
Présent.
Ok. Sur PlayStation.
Présent.
Sur Sega 32.
Pas présent.
Ok. Sur Jaguar.
Présent.
C'est quoi la Jaguar ? C'est laquelle ?
La Jaguar, c'est la console qui est au bout là. C'est une console Atari qui n'a pas beaucoup marché, qui n'a pas eu un grand succès quand même. Voilà.
Et aussi, donc les écrans sont d'époque.
Les écrans sont... Enfin, il y en a quelques-uns des années 90, mais je pense qu'il y a du début 2000 aussi. Hein.
Après, t'es obligé, hein, parce que là, il faut une prise Péritel. Hein. Bah. C'est pas du HDMI c'est ou... C'est
ça. Non, mais c'est surtout aussi pour avoir le rendu d'époque.
Bah oui, aussi. Ouais. Il faut que ça pixelise un petit peu. Il faut pas qu'il y ait une belle définition, quoi.
Et sur Game Boy Advance aussi ?
Sur Game Boy Advance aussi, c'est vrai. Le 1 et le 2, oui.
Et du coup, j'en ai oublié ou tu penses qu'il y en a...
Ah oui, après il y a les versions 3DO, la console de chez Panasonic par exemple. Il y a des versions sur...
Parce que j'ai pas parlé de PC. Hein.
Là je parle bien de console, ouais. La 3DO est une console. Ouais, ouais. Il y a la petite... le nom m'échappe.
Un trou de mémoire, enfin. On l'a collé.
La Zodiac. Donc voilà, personne ne connaît cette petite console, c'est une petite console portable. Voilà, c'est sorti et le format est sur des espèces de petites cartes SD. C'est rigolo aussi.
Et moi j'avais une dernière question. Enfin, vous avez peut-être des questions encore, Chami, Adeline, des interrogations.
T'es dans ta Laurent. Lancée là.
Alors, moi je suis dans mon dossier, mais alors moi j'ai un truc de base. Alors ça va être le truc de base. Doom, ça veut dire quoi ? J'ai trouvé trois définitions par rapport au jeu. Qu'est-ce que ça veut dire Doom ? Alors moi j'ai destin funeste. Ta chair consumée ou consommée ou le jugement dernier. Doom, c'est quoi ?
Il n'y a pas un jeu vidéo qui s'appelle déjà le jugement dernier ?
C'est The Flesh Consumed. Ah non, oui, alors là tu l'as dit.
Ah, tu as donné donc la bonne version.
Alors moi j'ai dit destin funeste, ta chair consumée ou ta chair consommée.
Ça, c'est le sous-titre d'un des épisodes, ça.
Ok.
Ouais, après, c'est qu'effectivement, le gars, le Doom Guy, qui maintenant s'appelle Doom Slayer, il est clairement Doom, il est maudit, quoi, en gros. Quoi. Il repart en enfer pour buter tous les démons et tout le bazar.
Tant qu'il en reste,
qui ont foutu le bordel sur Mars et les satellites de Mars sur Phobos et Deimos.
Et c'est quoi la différence entre le Doom-like et le Doom clone ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Il n'y en a pas vraiment, mais.
Déjà, moi, je ne sais pas ce que c'est l'un ou l'autre.
Alors, un Doom-like, c'est un jeu comme Doom.
Ok.
Voilà. Et pour l'anecdote, sur un salon, j'ai déjà entendu des petits jeunes passer et dire « Oh, Doom, le premier des Doom-like !» Et ça, c'est rigolo, puisque le gars, il se trompe complètement. Quoi. Forcément, c'est Doom, donc c'est le premier. Quoi. Voilà, c'était l'anecdote.
Et donc, il n'y en a pas forcément. Un Doom clone, c'est un peu un Doom-like.
Alors après, il y a plein de jeux comme... Oui, non, moi, je pense qu'il n'y a pas de différence, quoi.
Alors moi j'ai une question parce que du coup cette année si le premier est sorti en 93 tu m'as dit.
Le premier est sorti en 93.
Donc 25 ans cette année. Donc une collection qui remonte à 25 ans maintenant. Qui occupe combien d'espace chez toi ?
Trop.
Ah, très bien. Donc c'est très bien. Non mais tu as eu au moins l'initiative puisque j'imagine qu'il y a d'autres gens qui sont dans ton cas mais qui ne la sortent pas, qui ne la partagent pas.
On en arrive au partage, hein, la notion de partage, c'est un truc qui m'importe. Effectivement, j'ai toute cette collection et d'autres collections. Je fais pas que l'expo sur Doom. Ouais. Et pour moi, ça n'aurait pas beaucoup de sens si c'était rangé sur des étagères ou dans des cartons chez moi. Ça, il y a plein de gens qui peuvent le faire. Très bien, ok. Mais je pense que c'est plus enrichissant de donner l'expérience du jeu tel qu'il était aux plus jeunes ou pour les plus anciens, pour le côté nostalgie, ça les touche aussi. Donc voilà, je m'emploie à ça.
Donc tu montes des expos pour partager cette passion donc, et montrer Doom effectivement dans tous ses états. Ouais. Est-ce que tu as pensé également à l'exploiter en autre support, à savoir peut-être pourquoi pas faire un livre ? Alors après, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de Doom à travers le monde entier, à quel niveau tu te situes, si au contraire tu te sous-estimes ou tu es l'un des meilleurs représentants en France, je n'ai aucune idée, hein, mais Le livre peut être aussi intéressant avec toutes les photos là, les...
C'est un projet intéressant et je peux pas en dire plus pour l'instant.
D'accord.
C'est
j'ai fait le teasing de fou là.
C'est qu'il y a Anguille sous caillou quoi.
C'est un passage obligé pour que voilà, qu'il y ait une trace de cet esthétisme de cette époque là et puis retracer l'histoire des jeux vidéo qui est quand même quelque chose d'hyper important. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il existe un musée des jeux vidéo, parce qu'il pourrait y avoir un musée de l'informatique quoi, qui engloberait une partie de jeux vidéo.
Musée de l'informatique, je pense pas, mais musée du jeu vidéo, il y en a au moins un qui tient la route et qui se définit tel quel. C'est le Pixel Museum qui est sur Strasbourg, donc pas tout près d'ici. Je pense que c'est lui qui représente le mieux cet aspect-là. Après, musée de l'informatique, je pense que ça va être plus compliqué à faire en France, mais je m'y emploie aussi, j'espère bien y arriver un jour.
Ah ouais, si tu rechoppes des... après, je sais pas quelle est la taille de ta maison ou de ton sous-sol.
Ah mais il y a aussi si chez ma mère, il y a le garage. Enfin,
Les premiers calculateurs prennent un petit peu d'espace.
Il n'y a pas que Doom, hein. J'ai vu sur ton site, aussi...
Je fais des expos sur, par exemple, les jeux vidéo influencés par Lovecraft. Là, ce sont des jeux d'horreur. Je fais des expos sur les jeux de rôle, tout ce qui est de la licence Donjons et Dragons, tous ces trucs, aussi les jeux LucasArts, donc là c'est les point and click, tout ce qui est Monkey Island, Indiana Jones, Maniac Mansion, tous ces trucs là ça marche bien en médiathèque parce que ça a un fort rapport à la littérature ou des trucs comme ça. Après Doom c'est vrai que ça marche bien sur les salons de jeux vidéo ou à la nef ici, des lieux nocturnes on va dire quoi.
Moi j'avais une question.
Moi aussi, mais très psychologique, donc je suis à l'aise.
Alors moi j'avais une question pas psychologique, mais on y reviendra après. Parce que là aujourd'hui, on n'est pas dans une bibliothèque, on n'est pas dans une médiathèque, donc on peut pas parler bouquin. Mm-hmm. Mais on est dans une salle de concert. Toi personnellement, t'écoutes quoi comme musique?
Alors, moi,
est-ce que t'écoutes exclusivement de la musique issue de jeux vidéo?
Pas du tout.
Du Doom.
T'es plutôt jazz.
Il écoute du Doom.
Il écoute du Doom, c'est pas impossible.
Pas vraiment, non. Mais ça fait maintenant 21 ans que j'ai été DJ. DJ dans un rayon techno et EBM. Donc musique qui tend vers le côté industriel, on va dire. Quoi. Voilà, donc froide et synthétique. Voilà, donc j'écoute ça principalement, mais c'est vrai que ça m'arrive de faire des mixtapes métal en rapport avec le jeu vidéo ou des trucs comme ça.
Donc voilà. Une soirée comme là, Perturbator, les petits jeunes qui n'ont même pas l'âge de la naissance du jeu vidéo, toi c'est de la musique qui te parle.
Ah oui, absolument.
Et du coup, donc on est en train de l'interviewer pendant ce temps-là, donc il rate le concert, il pourra pas le voir.
Ah pardon, c'est vrai.
C'est pas grave.
Oui, moi c'est une question psychologique entre guillemets. C'est-à-dire que chaque passion naît d'une éducation, soit d'un accompagnement parental, soit
d'une rencontre,
soit au moment de l'adolescence. Ouais. Le déclic, il a été où en fait?
Le déclic, il a été, je pense, à l'école primaire, puisque dans les années 80, ils ont eu la bonne idée de faire le plan informatique pour tous. Et du coup, ils ont installé
Doom dans les écoles.
Pas Doom à l'époque. C'était plus raide que ça. Quoi.
Un petit PC, un petit
même pas. Voilà, le fameux Thomson MO5 avec le clavier gomme.
J'ai eu droit donc.
Donc on programme informatique très loin.
Nos destins ont été différents tous deux.
Mais du coup, en fait, on a promené à programmer là-dessus quoi.
En basique.
Des trucs très, très simples. Moi, c'était carrément la tortue logo. Donc c'était pour c'est de la programmation pour faire des dessins.
Ok.
Gros, voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Mes parents n'étaient pas du tout branchés informatique ou jeux vidéo, donc à la maison, c'était non. En tapant du pied. Voilà, je vous le fais.
Ah, donc le réflexe est logique. Lorsqu'un parent dit non, on y va. Quoi.
Voilà, il y a la frustration, évidemment. Quoi. Et heureusement, dans le village où j'étais, il y avait un club d'informatique. Et dès que j'ai pu y aller, j'ai passé mes mercredis, mes samedis, mes dimanches, après mes nuits, etc.
Et ça fait combien de temps que ça dure?
Depuis l'école primaire, on va dire.
Donc, voilà, ça ne s'est jamais arrêté. Moment, ouais. Et cette passion n'est que grandissante. J'imagine qu'il y aura d'autres expositions. Comment d'ailleurs, parce que là, on est à la nef dans une salle de musique actuelle. Les gens qui t'appellent pour monter et proposer ce genre d'expo, ça peut être des salons comme on en a parlé tout à l'heure.
Ouais, tu exposes à la Gamer Assembly à Poitiers.
Voilà. Oui, c'est arrivé aussi, oui.
Tu es à Bordeaux.
Ouais,
donc du coup tu bouges à travers la France, ouais, comment on fait?
Ouais, c'est ça,
et puis donc, faire appel à toi.
Qui s'intéresse en fait à ce genre de choses?
Ben pas mal de monde en fait, hein. Quand même ouais, ça m'occupe en gros un à deux week-ends par mois, ce genre d'expo. Donc évidemment, ça occupe une partie de la semaine aussi, puisqu'il faut le temps de préparer tout ça. Je n'ai pas forcément tout sous la main. Donc il y a une partie de logistique, on va dire, qui peut prendre pas mal de temps. Et ouais, cette année, j'ai pu aller à Nîmes, à Strasbourg.
Et dans quel cadre à chaque fois?
Comment?
Dans quel cadre? Dans des cadres de jeux vidéo
De conventions de jeux vidéo.
Il ouais, y a conventions de jeux vidéo, tout ce qui peut être, on va dire, geek, entre guillemets, quoi, des lieux, clubs, etc. J'ai fait un truc qui était intéressant à Nîmes, où j'ai fait le commissariat d'exposition, sur une expo qui a duré un mois. Donc là, c'est eux qui ont fait appel à moi pour du coup choisir les jeux sur une thématique qui était donnée par eux, quoi. Donc là, c'était une thématique, les mondes imaginaires, donc c'était vraiment très large.
Une petite carte blanche, quoi.
En gros, oui. Ouais. Donc là, j'ai choisi 12 jeux qui me parlaient vraiment. Et tout ça a été installé pendant un mois à la médiathèque Carré d'Art à Nîmes. Médiathèque intéressante, ça offre quand même 250 mètres carrés d'expo sur le jeu vidéo pour seulement 12 jeux. Donc là, on a pu faire une scénographie, mettre les jeux en valeur, les machines. Tout ça, c'était une expérience intéressante aussi. Ouais.
Bah, ce qui nous amène tout droit vers le futur. Est-ce que tu auras l'occasion d'exposer bientôt? Et où et quand et comment?
Là, qui me vient en tête, il y aura au moins le Start to Play au mois d'août. Donc ça, c'est à Strasbourg. Là j'y vais pour la deuxième année. L'année dernière, j'avais fait autre chose. J'avais fait un DJ set sur Commodore 64, on en parlait tout à l'heure.
Ouais.
En fait, l'année dernière, j'avais... Alors le DJ... Allez, j'en parle, parce que le DJ set Commodore 64, ça me parle aussi. En fait, c'est comme si j'avais des platines et une table de mixage, quoi.
Oui.
Sauf que je joue les morceaux sur mes disquettes 5 pouces 1 quart, comme à l'époque, et des lecteurs de disquettes. Et donc je les change, etc. Enfin, il y a comme si je changeais des disques.
D'accord, quoi, ok.
Une table de mixage au milieu pour enchaîner tout ça. Et ça m'occupe aussi pas mal de week-end. D'ailleurs, tu parlais de la Gamers Assembly tout à l'heure. La dernière fois que je suis à la Gamers Assembly, c'était aussi pour faire ça. Et c'est nos confrères de G4F qui m'avaient fait venir pour ça.
Voilà. Maintenant, moi j'en sais un petit peu plus sur ton univers, ta passion, le jeu Doom, la collection. Tu viens de parler justement de disquettes. J'avais une question qui m'intéressait, c'était sur ces fameuses données informatiques, ces fameuses données numériques. Tous les jeux que tu nous as amenés, donc qui sont d'époque, ont entre guillemets d'un point de vue théorique une durée de vie infinie. Mais est-ce que tu constates des dégradations, toi, sur des jeux, en fait, lorsque tu charges la cartouche, tu te dis ah, en fait, là, je pense que celui-ci.
Tu veux dire, est-ce que ça fait l'effet de la VHS?
Eh ben, exactement, puisqu'il y a,
Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Sur tout ce qui est console, effectivement, il y a beaucoup de cartouches. Enfin, les générations cartouches, ouais. Ça marche encore très bien. Faut nettoyer les contacts parce que c'est souvent oxydé, c'est très métallique, donc bon, voilà. Là où c'est plus problématique, c'est les supports CD, clairement, qui, eux, se raillent, puisque la surface est...
Donc on nous aurait menti ?
Bah, au final, ce qui marche le mieux, ça reste quand même tout ce qui est cassette.
Ouais.
Ça vieillit plutôt bien. Et même les disquettes souples, donc là, les disquettes 5 pouces 1 quart, vieillissent mieux que les 3 pouces et demi. Alors, pour plusieurs raisons, effectivement, elles sont souples, donc elles peuvent pas se briser, on va dire. Quoi. On peut déjà les tordre, ce genre de trucs, quoi. Et surtout, la densité des informations qui est contenue sur la disquette, elle est pas très importante. Donc les informations prennent beaucoup de place sur le truc, et du coup les lecteurs de disquettes arrivent encore facilement à lire là-dessus. Sur des disquettes 3 pouces et demi, c'est déjà plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'informations là-dessus, et bien souvent l'optique lâche le truc. Et, voilà.
Alors pour revenir à ta collection, est-ce que tu peux me donner un exemple du jeu le plus vieux que tu as et sous quel format il est?
Alors le jeu le plus vieux, je pense que c'est ça doit être 1977. C'est un jeu qui s'appelle Telengard et qui marche sur Commodore CBM PET. Donc c'est avant le Commodore 64.
Donc là on est en mode cassette.
Alors à cette époque-là c'était cassette, ouais.
Mais cassette. Style cassette audio, quoi.
Ah bah, c'est une cassette audio, ouais,
d'accord.
C'est pareil.
Ouais, ouais. Les informations sont stockées sur la bande magnétique, en fait. Voilà,
c'est,
ni plus ni moins.
C'est ça, ouais. Ouais, ouais.
Et tu l'as re-essayé pour voir justement si là encore.
Alors, je vais plus loin que ça, hein, parce que j'ai aussi un aspect conservation, en fait, de tout ça. Donc, la cassette audio, je la numérise sur l'ordinateur, quoi, comme si.
Pour faire une sauvegarde.
Voilà, pour faire une sauvegarde. Mais après, ce qu'il faut, c'est que ce fichier-là, j'arrive à le faire marcher dans un émulateur. Donc ça, c'est pour pouvoir y jouer sur un PC de maintenant, vite fait, voir si ça marche. Après, le but est aussi de pouvoir, à partir de ce fichier-là, recréer une cassette propre toute neuve, quoi, on va dire, quoi, et que ça marche aussi, mais depuis le fichier, pour que tout le monde puisse le faire, en fait.
Okay. Moi, j'ai une question.
Oui.
Il n'y a pas de droit, il n'y a rien là-dessus ?
Bah, il y a de droits, c'est comme quand on copiait des cassettes à l'époque, on va dire.
Voilà, mais c'est la même
effectivement, il y a des droits, oui.
Donc, du coup, tu dupliques une cassette ?
Je duplique une cassette.
Mais via un support numérique ?
Bah, il enregistre une cassette
sur un support numérique et après tu le remets sur cassette.
Alors effectivement, ce truc-là, tous ces trucs-là, beaucoup de gens, on va dire, se sont déjà penchés sur la question et quasiment tout a été sauvegardé, on va dire, et quasiment tout le monde peut refaire ses propres disquettes, ses propres cassettes, d'accord, etc. Après, il y a eu quelques exceptions, certains jeux qui n'ont pas été sauvegardés et celui-là en faisait partie, donc je m'y suis employé, voilà.
Après, quand on achète des cassettes ou des disquettes ou autres supports de reproduction, on paye de toute façon une taxe qui revient au droit d'auteur.
Dans quelle proportion, ça, j'en sais rien. Quoi,
mais... Moi non plus. Mais ouais, en tous les cas, on nous prélève de l'argent à la source. Donc
Et c'est parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir une console. Je me souviens que le joystick, en fait, c'était clac, clac, clac. C'était pas rond, quoi.
Ouais, bah, c'était des micro-switch, ouais.
Pack, ou je sais pas quoi. Et, ouais. Mais ça fait partie aussi des délires que tu conserves.
Ah oui, absolument. Ouais. Ouais, ouais.
D'accord.
Bah oui, il a tout.
Mais je me souviens. Non, je t'arrête. Loin de là.
Ah.
C'est vraiment un domaine qui est pas infini, mais qui en est vraiment pas loin, quoi.
Ouais. Et en France, est-ce que tu as des contacts, j'imagine que oui, avec des gens qui ont la même passion que toi? C'est juste pour connaître la communauté, en fait. Est-ce qu'elle est nombreuse ou au contraire, il y a des pays, la Scandinavie ou les États-Unis qui sont...
On va dire que la France n'est pas en reste.
Ouais.
Vraiment, quoi. Après, c'est pour tous ces supports dont on parlait, la vidéo pack ou des trucs comme ça, on va dire des supports anciens. C'est vrai que les collectionneurs en question sont plus âgés et n'ont pas forcément l'envie de tout sortir, tout montrer, etc. quoi. Mais il n'y a pas que le côté nostalgie qui joue là-dedans, quoi. Il y a quand même aussi des petits jeunes maintenant qui ont vraiment envie de connaître comment ça marchait à l'époque, quoi, et qui cherchent aussi ces objets-là, quoi.
Comme aujourd'hui, il y a encore des jeunes aujourd'hui qui écoutent du vinyle.
Et bien sûr,
ouais, voilà, c'est un exemple aussi. Ouais.
Chaque support, en fait.
Chaque support a une histoire et a le mérite de pouvoir encore être étudié, utilisé.
Mixé, repensé.
Ouais, exactement, retravaillé.